Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros dossier dont vous avez forcément entendu parler, l'affaire Sesnec. 1923, Guillaume Sesnec a-t-il tué son ami Pierre Quémeneur? En 1924, la justice française a dit oui, et Guillaume Sesnec a passé 20 ans au bagne de Guyane pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Mais ses descendants sont convaincus que c'est une erreur judiciaire, et depuis des décennies, ils essayent de le prouver. Les fidèles diront « mais c'est une histoire que vous avez déjà racontée », et c'est vrai. Mais depuis, il y a eu des rebondissements. Et je l'ai donc entièrement réécrite, mise à jour et complétée. Sans pouvoir vous jurer aujourd'hui que c'est une version définitive. Avec l'affaire Sesnec, on ne peut jamais dire qu'on en a terminé. Nouvelle version donc, et nouvelle réalisation, signée Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
Rennes, en Bretagne, au petit matin du 25 mai 1923, deux quadragénaires replés font route vers Paris dans une Cadillac. Je vous les présente. Celui qui est au volant s'appelle Guillaume Sesnec. Il a fait fortune pendant la guerre de 14 grâce à sa blanchisserie. Avec sa femme, ils ont lavé le linge de l'armée et de l'hôpital américain. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, il vient de vendre sa blanchisserie et de se lancer dans le bois. Il a acheté une scierie à Morlaix. Et puis celui qui est à côté de lui, dans la Cadillac, eh bien c'est Pierre Quémeneur. Lui aussi, il a fait fortune pendant la guerre de 14, dans le bois justement, qu'il a vendu aux armées françaises et américaines, pour construire des barrières, des poteaux, pour étayer des tranchées. Et maintenant, Pierre Quémeneur est devenu un notable. Il s'est fait élire conseiller général du Finistère. Bref, voilà donc deux profiteurs de guerre en route pour Paris un matin de mai 1923. Ces deux-là sont-ils amis? Amis, pas vraiment. Mais proches, c'est sûr. Disons des amis d'affaires. Ils ont plein de projets en commun. Par exemple, quand les Américains sont partis, Sesnec a récupéré un lot de couvertures de l'armée américaine. Et Quémeneur, ma foi, est bien intéressé par leur revente. Quant à Sesnec, il est intéressé par un manoir qui est la propriété des Quémeneurs, le manoir de Plourivo, dans le Finistère. Rien n'est signé, hein. Quémeneur est dur en affaires, mais c'est en bonne voie. Il lui lâchera les couvertures et il aura son manoir. Voilà. Et c'est pas tout. Les deux hommes sont sur un gros coup. Ils ont des vues sur des Cadillacs, abandonnés par les Américains quand ils ont quitté la France. Ils espèrent récupérer le lot et aller le revendre à Paris, et s'en mettre une fois de plus plein les poches. Et d'ailleurs, ce matin du 25 mai 1923, c'est dans l'une de ces Cadillacs qu'ils sont en route vers Paris. Ils ont rendez-vous avec un certain Cherdy, qui vend des voitures d'occasion dans la capitale. Ils vont se faire des couilles en or. Ce qui s'est passé après, honnêtement, je ne suis pas capable de vous le dire avec certitude. Je n'ai que la version de Guillaume Sesnec, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette affaire. Est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il dit la vérité? Sesnec raconte que la Cadillac est à bout de souffle et que sur la route de Paris, elle va de panne en crevaison. C'est un taco, la qualité américaine, tu parles. Sesnec dit qu'à un moment donné, Quémeneur n'en peut plus. Écoutez, mon ami, cette guimbarde ne nous conduira jamais à Paris, hein? Alors déposez-moi à la gare d'Oudan, hein? Je terminerai en train. Et vous, vous faites comme vous voulez. On se retrouve à Paris. Sesnec dit qu'il dépose son ami à la gare de Oudan et que finalement, découragé par la succession de pannes, il renonce à se rendre à Paris et il fait demi-tour. Et que de galère en galère, il lui faut 2 jours pour ramener la voiture à Morlaix. Morlaix, où il arrive le 28 mai, seul. Et quand on lui demande « Où est Quémeneur ?»«
Oh ben je sais pas, il a pris le train, je l'ai pas revu. »
Puis les jours passent, et à Landerneau, les quémeneurs commencent à se faire du mauvais sang. Ils n'ont aucune nouvelle de Pierre. Alors au bout de 3 semaines, ils portent plainte. Et c'est le début de cette affaire. Sauf que surprise, le jour même, les quémeneurs reçoivent un télégramme du Havre. Ne rentrerait Landerneau que dans quelques jours, tout va pour le mieux, signé quémeneur. Et là, on est tenté de dire « Ouf, il est vivant !» Sauf que les quémeneurs ne sont pas du tout rassurés, et vous savez pourquoi ? Le télégramme est signé quémeneur. Il ne fait jamais ça. D'habitude, quand il écrit à sa famille, il signe toujours de son prénom, Pierre. Et l'inquiétude monte encore quelques jours plus tard, quand on retrouve au Havre la valise de quémeneur, tachée de sable et de sang. Et c'est pas tout. Dans la valise, on trouve une promesse de vente qui concerne le fameux manoir de Plourivaux. Quémeneur l'a vendu à Seznec et à un prix très avantageux. Et c'est ça, c'est cette promesse de vente qui, d'entrée, oriente la police vers Seznec. Est-ce que Seznec n'aurait pas assassiné Quémeneur après lui avoir extorqué cette promesse de vente à vil prix ? C'est séduisant comme piste. Et en même temps, c'est très fragile, hein, parce que réfléchissez. À quoi servirait-il de tuer quelqu'un qui ne vous a fait qu'une promesse de vente ? Si Quémeneur est mort, la vente n'aura jamais lieu. Seznec peut dire adieu au manoir de ses rêves. N'empêche que le 16 juillet 1923, Guillaume Seznec est arrêté et il ne sera pas libéré avant longtemps, très longtemps.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la fameuse affaire Seznec. Le 16 juillet 1923, à Morlaix, en Bretagne, Guillaume Seznec est arrêté. Il est soupçonné de l'assassinat de son ami et associé, le conseiller général Pierre Quémeneur. Il l'aurait tué au cours d'un voyage en voiture à Paris pour mettre la main sur son manoir. Et là, concentrez-vous, parce que ça va aller très vite. Cette enquête va être bouclée en 12 jours. On commence par doubler les effectifs de la brigade de Rennes, en faisant venir de Paris une équipe d'enquêteurs de la Sûreté Générale, dirigée par le commissaire Vidal. Eh oui, la victime est tout de même un conseiller général, ça mérite qu'on mette les moyens. Enfin, quand je dis la victime, j'en sais rien, hein. On n'a pas retrouvé le corps de Pierre Quémeneur, et à ce jour, on ne l'a toujours pas trouvé. Guillaume Seznec dit qu'il dépose son ami à la gare d'Oudan en fin d'après-midi pour qu'il attrape un train en direction de Paris. Mais renseignement pris, il n'y avait plus de train ce soir-là pour aller à Paris. Le premier train était à 3h40 du matin le lendemain. Est-ce qu'on a vu Quémeneur ce soir-là errer dans la gare d'Oudan ou en ville ? Eh ben non. Alors il a pu passer la nuit à l'hôtel. Les policiers font le tour des hôtels de Oudan. Personne ne l'a vu. Guillaume Seznec fait alors une suggestion. Ben, il a peut-être rencontré une fille. Chez qui il a pu coucher, non ? Une fille. Il suggère que le conseiller général Quémeneur a passé la nuit dans le plumard d'une femme de petite vertu. Et puis quoi encore ? Les notables de Houdan sont révoltés. Il n'y a pas de ça chez nous. En revanche, ce soir-là, le chef de gare a bien aperçu 2 hommes devant la gare, aux alentours de 22 heures.
« Ah ben oui, oh, j'en ai vu 2. Et ils se disputaient. »
Ils se disputaient. Tiens, tiens. Il y a autre chose qui ne tient pas dans les déclarations de Seznec. Il dit qu'après avoir laissé son ami à la gare, exaspéré par une nouvelle panne, il a décidé de faire demi-tour pour rentrer en Bretagne. C'est une drôle de décision, parce qu'à Oudan, il est à 46 km de Paris, alors qu'il est à plus de 500 km de Morlaix. Avec une voiture en rade, il était beaucoup plus simple d'aller à Paris que de rentrer en Bretagne. Non ? autre détail qui cloche. Quand Seznec arrive avec sa Cadillac à Morlaix, il manque le cric. Un cric de 15 kilos. Est-ce que ça ne serait pas avec ça qu'il a estourbi Kemener? Je sais que ça n'est qu'une hypothèse, mais pourquoi pas? Autre chose. Je vous ai dit que Guillaume Seznec venait d'acheter une scierie. Eh bien, les ouvriers racontent que quand il arrive à Morlaix, Seznec met en marche la chaudière de sa scierie. Et qu'après, il va balancer des cendres dans la rivière. Est-ce que ça ne serait pas les cendres de Kemener? Je sais, ça n'est qu'une supposition, mais à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on mène une enquête. Et puis, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit et qui attise le soupçon sur Seznec. Pour se lancer dans le commerce de Cadillac, le duo avait besoin de liquidités. Avant de partir, Pierre Kemener est donc allé voir son notaire, qui lui devait de l'argent. « 60 000 francs? Vous voulez 60 000 francs? Enfin, je sais que je vous les dois, mais convenez qu'il n'est pas aisé de réunir pareille somme avant votre départ. Alors voilà ce que je vous propose. Hein. Je vous les envoie par mandat au bureau de poste du boulevard Malesherbes à Paris. Et vous les récupérerez en arrivant à Paris. Alors, est-ce que quelqu'un est allé récupérer l'argent? Les policiers de la Sûreté Générale vérifient. Oui, on est venu chercher l'argent. Et ils montrent une photo de Kemener au guichetier. Ah non? Non, ça c'est pas lui. Et ensuite une photo de Seznec. Ah non plus, non. Non. Je le reconnais pas, non. Eh bien, qu'importe. Trois personnes seulement étaient au courant de la manœuvre. Kemener, le notaire qui n'a pas bougé de Morlaix, et Seznec. Si Kemener a disparu, c'est forcément Seznec. Il dit qu'il a fait demi-tour à Oudan. Ça n'est pas vrai. Il est allé à Paris récupérer l'argent. Et puisqu'on parle d'argent, figurez-vous que Pierre Kemener est aussi parti à Paris avec 4 000 $ or dans sa valise. Des dollars que lui aurait donné Seznec, qui les tenait de son commerce avec les Américains, un dessous de table dans l'achat du manoir. Le deal était le suivant, je te donne les dollars, en espèces, pas vu, pas pris, et on signe le manoir pour 35 000 francs. Et à partir de là, hypothèse, Seznec tue Kemener, une fois signé la promesse de vente, et il récupère ses dollars. Il est doublement gagnant, il acquiert le manoir à vil prix, et il reprend sa mise. Ça fait un mobile, ça, non? À part ça, il y a un gros doute sur la promesse de vente elle-même, qu'on a retrouvée, je vous rappelle, dans la valise de Kemener. Et si Seznec l'avait écrite lui-même? L'inspecteur Bonny perquisitionne chez lui, à Morlaix, et en fouillant, il tombe sur une machine à écrire, une Royal 10, et il demande à des experts de comparer les caractères avec ceux de la promesse de vente. Je ne peux pas dire avec certitude que ce document a été écrit sur cette machine-là. Mais il a été écrit à tous les coups sur une machine similaire, hein, une Royal 10, ça, je peux l'affirmer. Guillaume Seznec avait-il cette machine à écrire chez lui? Une vendeuse de machines du Havre affirme sur présentation d'une photo qu'elle la lui a vendue le 13 juin. C'est très intéressant pour les enquêteurs parce que c'est du Havre qu'est envoyé, vous vous souvenez, le télégramme censé rassurer la famille de Kemener. Conclusion de tout ça, Seznec est l'auteur du télégramme et c'est lui qui a rédigé la promesse de vente qui est donc fausse. Alors on lui pose la question. Monsieur Seznec, vous étiez bien au Havre le 12 et le 13 juin? Oh, pas du tout. J'étais à Saint-Brieuc. Je m'en souviens, je suis tombé une fois de plus en panne. Alors j'ai pris un train pour Saint-Brieuc. J'ai dormi à l'hôtel à Saint-Brieuc. Ah bon? Et dans quel hôtel, monsieur Seznec? Oh ben, je sais plus, tiens.
Dommage, monsieur Seznec. Donc il ne peut pas prouver qu'il n'était pas au Havre. C'est l'essentiel. S'il ne peut pas le prouver, c'est qu'il y était. Et raisonnement à la noix, vous me direz, mais c'est comme ça que ça marche à l'époque. Et s'il y était, c'est qu'il est l'auteur du faux télégramme et de la promesse de vente. C'est logique. Donc, Seznec a tué Kemener. Voilà le raisonnement.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la fameuse affaire Seznec. Le 25 mai 1923, Guillaume Seznec et Pierre Kemener, deux Bretons de Morlaix, montent à Paris pour faire des affaires. Ils transportent beaucoup d'argent. Mais Kemener disparaît et Seznec rentre en Bretagne seul. Les policiers le soupçonnent immédiatement d'avoir fait disparaître son associé pour mettre la main sur l'argent et sur un manoir que Kemener lui aurait promis. Ils l'arrêtent et le jettent en prison. Du fond de sa cellule, Seznec cogite. Il cherche des moyens de se faire innocenter. Et il a une idée à la noix. Dans l'anse d'un panier de linge sale, il glisse un message pour sa femme. « Va donc trouver le père Mingour. Dis-lui que j'aurai passé le 23 mai vers 6h ou 7h du soir et que je lui ai fait voir à cette date la promesse de vente. Ensuite, va chez le russe. Appelle-le bien de ma part et confie-lui la même chose. » J'espère que tu as trouvé quelqu'un pour dire que j'étais à Brest le 13 juin. Il demande à sa femme de mentir. Et pas de peau, il se fait pincer. Et le juge lui demande. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manigance, Seznec ? Je me défends comme je peux, monsieur le juge. Je n'ai contre moi que de faux témoignages. Je réponds par de faux témoins. Oui, mais ça n'arrange pas ses affaires. Comme sa tentative d'évasion juste après, on le retrouve coincé dans la buanderie de la prison. Le procès de Guillaume Seznec pour le meurtre de Pierre Kemener s'ouvre le 24 octobre 1924 à Quimper. Et ça commence mal. L'avocat que Seznec s'est choisi vient d'être nommé sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique. Il ne peut pas venir. Et donc il envoie à sa place un bleu qui n'a jamais plaidé aux assises. C'est mal parti. La salle est bondée. On a tendu des toiles rouges pour cacher les murs décrépits. Les chroniqueurs judiciaires de Paris sont là. Et dehors, la foule crie « Assassin ! À mort, Seznec ! À mort !» Mais Guillaume Seznec se bat. Il nie tout. Il n'a pas tué Kemener, il n'a pas rédigé de faux, il n'a pas envoyé de télégramme. Quant à la machine à écrire, utilisée pour rédiger les fausses promesses de vente, elle a été placée chez moi par la police pour me compromettre. C'est une machination. Évidemment, son goût pour l'argent et son passé de profiteur de guerre lui reviennent comme un boomerang. On rappelle que son premier commerce, une échoppe de réparation de vélos, a brûlé avant la guerre et qu'il a touché l'argent de l'assurance. Et qu'après la guerre, sa blanchisserie aussi a brûlé et qu'il a encore touché l'argent de l'assurance. Seznec se rebiffe. Le président l'interrompt. « Oui, de toute façon, monsieur Seznec, vous n'êtes pas jugé pour ça, n'est-ce pas ?»« Oui, je ne suis pas jugé pour ça, mais alors, à quoi bon d'en parler ?» Il a raison. Mais le président continue sur le même ton. « Moi, voyez-vous, monsieur Seznec, je ne sais qu'une seule chose. C'est que Kemener a été attiré dans un piège et assassiné. Que son assassin l'a détroussé avant de disparaître. Et que cet assassin, vous le connaissez mieux que personne. On dit ce qu'on veut. Encore faut-il le prouver, monsieur le président. Et le CRIC, Seznec, qu'avez-vous fait du CRIC ? Vous êtes automobiliste, monsieur le président ? Non. Eh bien, si vous étiez automobiliste, vous sauriez qu'une panne est le moyen le plus courant de perdre ses outils. La salle bouffe de rire. Thank you.
La défense fait venir à la barre un breton de Paris, un certain Leher, qui est receveur de tramway.
J'ai vu, monsieur Kemner, sur la plateforme de mon tramway, entre Passy et Hôtel de Ville, le 26. J'en suis formel.
Le 26,
c'est-à-dire le lendemain du jour où il a disparu. Et il n'y a pas que lui, hein. Un notaire de Landerneau vient dire à la barre qu'il a croisé Kemner en gare de Rennes le 26 ou le 27.
Après 12 jours de procès, à minuit 20, les jurés se retirent pour délibérer.
À la question, Guillaume Sesnec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kemener ? Les jurés dans leur majorité ont répondu oui. À la question, le crime a-t-il été commis avec préméditation ? Les jurés ont répondu non. À la question, y a-t-il eu guet-apens ? Les jurés ont répondu non. À la question, est-il coupable de faux en écriture privée ? Les jurés ont répondu oui.
Pas de préméditation. Sesnec sauve sa tête. Il échappe à la guillotine.
En conséquence, la cour condamne Guillaume Sesnec aux travaux forcés à perpétuité.
Et à partir de là, Guillaume Sesnec suit le parcours des perpètes de l'époque. D'abord le pénitencier de l'île de Ré. Si vous passez par là, allez le voir. C'est toujours une prison. Une prison qui a la particularité d'avoir un petit port. D'où le 7 avril 1927, Guillaume Sesnec embarque sur le bateau prison, la Martinière, en direction de la Guyane. À bord de la Martinière, ils sont 700. 700 bagnards entassés dans des cales pestilentielles. Avec les vagues, ça dégoubille à tour de bras. Et puis l'urine, les maladies. Mais Sesnec tient le coup. Et il débarque à Saint-Laurent-du-Maroni, où il est accueilli comme une vedette. Son procès a fait la une de tous les journaux, et ça lui permet de bénéficier d'entrée d'une certaine protection des autres détenus. Assez vite, il est transféré sur l'île Royale, ce qui n'est pas plus mal, hein. C'est plus aéré que le bagne de Cayenne. Il fomente plusieurs projets d'évasion, il se fait pincer d'ailleurs, mais il échappe aux sanctions. Et on le met à travailler, d'abord dans les cuisines, puis au jardin, à l'église et au sémaphore. Et après de longues années, on finit par le mettre comme garçon de famille chez un notable de Cayenne, dans une belle maison coloniale. C'est la planque, et c'est comme ça qu'il tient le coup. Et les années passent, et en 1947, après 20 ans de bagne, on lui annonce qu'il peut rentrer chez lui, par ses propres moyens. Comment va-t-on l'accueillir à Morlaix ?
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui la fameuse affaire Sesnec. Guillaume Sesnec est condamné en 1924 à Quimper aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre de l'homme d'affaires Pierre Kemener qu'il aurait tué pour le dépouiller. Sesnec va purger sa peine au bagne de Cayenne, en Guyane. Il y passe 20 ans et au bout de 20 ans, en 1947, on lui dit qu'il est libre de rentrer chez lui en Bretagne. Et voici un document unique exhumé des archives d'Europe 1, un enregistrement de Guillaume Sesnec à son retour en France.
J'avais 45 ans quand je suis rentré au bagne.
Oui. Et quand vous en êtes sorti, qu'est-ce qui vous a paru le plus extraordinaire de retrouver cette vie qui ne ressemblait pas du tout à celle qui était la vôtre quand vous êtes entré là-bas? Qu'est-ce qui vous a étonné davantage, monsieur Sesnec?
Mais évidemment, les mœurs n'étaient plus les mêmes.
Les mœurs?
Les mœurs, et puis enfin, tout le rien n'était pareil comme quand je suis parti au bagne.
Évidemment, en 20 ans, il y a du changement. D'abord, sa femme est morte, et l'une de ses filles aussi. Et une autre de ses filles, figurez-vous, Jeanne, vient d'être jugée pour meurtre. Elle a tué son mari qui l'a battue, mais elle a été acquittée. Crime passionnel. Et donc, quand il rentre en métropole, Guillaume Sesnec ne va pas chez lui, en Bretagne. Il s'installe à Paris, chez une autre de ses filles, dans un tout petit deux pièces du 13e arrondissement. Et là, il se retrouve au milieu de ses petits-enfants qu'il ne connaissait pas. Et il va nouer une relation particulière avec l'un de ses petits-fils, Denis, qu'on va retrouver quand il sera grand, à la tête du combat pour la réhabilitation de son grand-père. Parce que Guillaume Sesnec ne va pas pouvoir se battre lui-même. En février 1954, il est renversé par une camionnette dans la rue, à Paris. Et il meurt. Il ne pourra pas défendre lui-même son honneur. Parce que depuis qu'il est rentré, il n'a pas bougé d'un poil. Il n'a pas tué Kemener. Sa condamnation est une machination. Mais quand Guillaume Sesnec meurt, son histoire ne s'arrête pas. L'affaire Sesnec commence une seconde vie. Il n'a pas pu se réhabiliter lui-même. Sa famille décide de le faire à sa place. Depuis 1954, année de la mort du patriarche, les Sesnec, le petit-fils Denis en tête, ont déposé 14 demandes de révision de son procès. 14, toutes rejetées. Mais pendant toutes ces années, ils ont réussi au moins quelque chose. En 1924, quand Guillaume Sesnec est condamné, souvenez-vous, hein, les gens réclament sa mort, à mort, à mort. L'opinion de l'époque est convaincue qu'il est coupable. En revanche, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est le tour de force du petit-fils Denis. Il a mis l'opinion dans son camp. Pour l'opinion d'aujourd'hui, Sesnec est victime d'une erreur judiciaire. Le problème, c'est que la justice, heureusement d'ailleurs, hein, n'a que faire de l'opinion. Pour entrer dans un processus de révision d'une condamnation, elle exige des éléments nouveaux et probants, de nature à faire naître un doute. Pas des trucs qui étaient dans le dossier et qui n'ont pas été exploités. Non, non. Nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'affaire Sesnec depuis sa condamnation de 1924? Eh bien d'abord, on a retrouvé Cherdy. Vous savez, le marchand de voitures d'occasion de Paris à qui les deux compères, Sesnec et Kemener, venaient proposer un lot de Cadillac américaines. À l'époque, on ne l'avait pas retrouvé. On avait fini par penser d'ailleurs qu'il n'existait pas, que Sesnec l'avait inventé pour faire oublier le vrai but de ce voyage, tuer Kemener et le dépouiller. Eh bien, Cherdy existe. Enfin, son vrai nom c'est Gerdy, c'est un Algérien. Et vous savez ce qu'il dit ? Ah, mais j'ai rencontré M. Kemener, hein, le 26, à 8h, à la banque privée coloniale, avenue du Maine. Il venait de toucher un mandat de 5000 francs qui venait d'arriver de Landerneau. Or, le 26, c'est le lendemain de sa disparition. Le 26, Sesnec est sur le chemin du retour. C'est nouveau, ça. Si c'est vrai. Et puis, il y a de nouveaux témoins. Un chauffeur de taxi affirme, et on regrette qu'il ne l'ait pas dit plus tôt, qu'il a transporté Kemener jusqu'à sa propriété de Plourivaux le 27 mai. Et là, c'est 2 jours après sa soi-disant disparition. Ça aussi, c'est nouveau. Si c'est vrai. La même nuit, 6 marins qui se trouvent sur un bateau au large du manoir disent qu'ils entendent des coups de feu. Donc, il y avait du monde au manoir. Et donc, peut-être Kemener. Peut-être. Dans l'histoire de cette tentative de révision du dossier Sesnec, il se produit aussi un truc absolument unique. 6 des 12 jurés qui ont condamné Sesnec en 24 à Quimper organisent une réunion. C'est absolument interdit. Les jurés sont tenus au secret du délibéré. Mais bon, ils sont entre eux. Venez, venez. Tendez l'oreille. Écoutez ce qui se raconte.
Ah, moi j'ai voté pour la perpétuité. J'aurais pas dû. J'en dors plus. Oh, moi, c'est pareil. On doit réparer ce qu'on a fait.
6 des 12 jurés qui ont condamné Seznec ont des états d'âme. Ils le font savoir, hein. Dans une déclaration, ils réclament la révision du procès. C'est du jamais vu. Enfin, tous ceux qui vont se battre pour la réhabilitation de Guillaume Seznec vont buter sur la personnalité du policier Pierre Bonny. Bonny, c'est lui qui retrouve chez Seznec, vous vous souvenez, la fameuse machine à écrire. La pièce à conviction qui a permis de le condamner. Eh bien, ce Bonny est un sacré lascar.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Seznec. Guillaume Seznec, condamné en 1924 à Quimper aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre de l'un de ses amis d'affaires, Pierre Quémeneux. Seznec est libéré après 20 ans de bagne et il meurt dans un accident 7 ans plus tard. Depuis, sa famille a tenté 14 fois d'obtenir la révision de sa condamnation. Avec des arguments, dont un lié à la personnalité du policier qui a participé à l'enquête à l'époque et qui s'appelle Pierre Bonny. Attention, hein. Bonny n'est pas le patron de l'enquête de l'époque. Le patron, c'est le commissaire Vidal. Bonny, c'est un bleu, c'est un inspecteur stagiaire. Mais c'est un ambitieux qu'on va retrouver dans tout un tas d'affaires de basse police qui ont déshonoré la police sous la Troisième République. L'affaire Stavisky, l'affaire du conseiller Prince, etc. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand on va commencer à lui chercher des poux, il dira « Si on me vire, je sortirai toute l'affaire Seznec. J'ai pris trop de risques. » Des risques. Quel risque, monsieur Bonny? Par exemple, aller planquer une machine à écrire dans la maison de Seznec pour le compromettre? C'est ça la question concernant l'inspecteur Bonny. On n'aura pas de réponse. En 1935, Bonny se fait virer de la police pour corruption et il ne balance rien sur l'affaire Seznec. En revanche, vous allez adorer la suite de sa carrière. On le retrouve en 1941 au service de la Gestapo. La police n'a pas voulu de lui. On l'a écarté avec dégoût. Qu'à cela ne tienne, la Gestapo saura exploiter ses talents. Ce qu'il a fait pour eux, je n'en sais rien. Mais on sait ce que faisait la Gestapo à l'époque. Elle arrêtait des juifs, elle arrêtait des résistants, elle arrêtait des infiltrés. Quoi qu'il en soit, en décembre 1944, à la fin de la guerre, fusillé Pierre Bonny, fusillé pour collaboration. Il aurait dit à son fils avant de mourir. J'ai eu la certitude, pour ainsi dire formelle, que Seznec était innocent. Ouh, ça pèse lourd, ça. Si, c'est vrai qu'il l'a dit. Il aurait dit aussi quelques années plus tôt, en 36. La machine à écrire. Eh bien, c'est moi qui l'ai cachée chez Seznec. Il l'aurait dit. Puisqu'on parle de la machine, la vendeuse du Havre qui avait dit à l'époque, sur photo, qu'elle avait vendu la machine à écrire à Seznec, eh bien en 1993, elle a changé d'avis. Quand on m'a montré la photo, je ne l'ai pas reconnue en vérité. Mais c'est Bonny qui m'a dit de dire que c'était lui. Bonny, encore lui. Vous savez ce que disaient les policiers bretons à l'époque? Oh ben dans l'affaire Seznec! Les connards de Paris ont fabriqué des preuves. C'est ça, la vérité. Dans le combat de Denis Seznec, il y a sans doute eu un moment où il s'est dit « Je me suis pas battu pour rien. On va y arriver. La justice va faire marche arrière. » C'est en janvier 2001, sous Jospin. La garde des Sceaux est bretonne, Marie-Lise Lebranchu. Et elle milite depuis longtemps pour la réhabilitation de Seznec. Alors le 28 janvier 2001, elle dépose elle-même une demande de révision. La garde des Sceaux, le petit-fils Denis est aux anges.
Bouleversé, je ne peux pas dire autrement, très ému, parce que c'est 78 ans de lutte. Je ne dis pas ça pour entrer dans le livre des records, mais c'est ma famille lutte depuis 78 ans. Cette fois-ci, c'est le garde des Sceaux qui va demander la révision. C'est pas le petit-fils, c'est pas ma mère, vous voyez, c'est le garde des Sceaux, c'est le troisième personnage de l'État. C'est une Bretonne, elle connaît bien le dossier. Elle a milité avec moi pour l'affaire Cessnec en plus, en tant que Bretonne et en tant qu'élue. La seule étape qui va être difficile encore à passer, c'est que pourvu que les cinq hauts magistrats de la commission de révision ne me déboutent pas comme ils l'ont fait le 28 juin 96 à une voix près, parce qu'ils avaient le sentiment, qu'on les amène à condamner la justice. C'est un peu comme des généraux qui condamnent l'armée. C'est pas du tout le cas, c'est pas vrai. Réhabiliter mon grand-père, c'est au contraire, ils ne peuvent être qu'honorés.
Cinq ans plus tard, en 2006, on attend toujours la décision de la Cour de révision. Mais ça sent bon. L'avocat général a demandé à la Cour la réhabilitation de Cessnec, au bénéfice du doute. Ça, c'est le bémol. Il a dit qu'on ne pouvait pas être certain qu'il était innocent, mais que dans le doute, on pouvait le réhabiliter. Le petit-fils Denis s'en contenterait.
C'est sur le doute qu'ils doivent se prononcer. L'innocence, je crois qu'ils le savent que dans l'opinion et dans l'histoire, elle est quelque part... elle est inscrite quand même.
Je vous fais remarquer l'audace de l'avocat général. Parce qu'à l'époque, Marie-Lise Lebranchu n'est plus garde des Sceaux depuis belle lurette. Hein. Il n'est pas à ses ordres. La cour de révision prend 2 mois pour délibérer. Et elle rend sa décision le 14 décembre 2006.
Les magistrats de la cour de révision ont donc décidé de ne pas annuler la condamnation de Guillaume Cessnec qui date de 1924.
Il avait argument de la cour de révision. Je lis. Il n'existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume Cessnec. Et concernant le policier Bonny, qui était l'argument numéro 1 de cette demande de révision, la cour de révision ajoute « Rien n'établit que Bonny, quel qu'ait été son comportement à partir des années 30, aurait dès les années 24 et 25 fabriqué de faux coupables et de faux témoins. » Pour Denis Cessnec, c'est la douche froide.
La justice, avec son bandeau sur les yeux, se disait aveugle. Depuis l'affaire Outreau, ils sont présents, on la croyait sourde. Eh bien, depuis l'affaire Cessnec, elle est devenue folle. Folle.
Et ce jour-là, franchement, tout le monde se dit « on en a fini avec l'affaire Cessnec ». Mais avec les Cessnec, voyez-vous, ça ne sera jamais fini. Jamais.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Cessnec. Guillaume Cessnec, condamné en 1924 à Quimper aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre de l'un de ses amis d'affaires, Pierre Quémeneur. Libéré en 1947, Guillaume Cessnec meurt 7 ans plus tard dans un accident de la circulation. Mais depuis, son petit-fils Denis se bat pour sa réhabilitation. 14 demandes de révision ont été déposées. Toutes ont été rejetées. La dernière en 2001, pourtant déposée par la garde des Sceaux elle-même. Mais tous ceux qui croient à l'innocence de Guillaume Cessnec ne baissent pas les bras. Un homme, notamment, continue le combat. Maître Denis Langlois, l'un des avocats qui a défendu les dernières demandes de révision. Et en février 2015, il publie chez Plon « Pour en finir avec l'affaire Cessnec ». Un livre dans lequel il révèle un document inédit, extraordinaire, qui éclaire d'un jour totalement nouveau cette affaire. Il s'agit de la retranscription d'un enregistrement du fils de Guillaume Cessnec, qui raconte une scène qui est un tremblement de terre dans cette affaire. En 1923, l'un des fils Cessnec, donc, Guy, qu'on appelait Petit Guillaume, et qui à l'époque avait 11 ans, raconte qu'on est dimanche, qu'il fait beau, qu'il est en train de jouer dehors dans la cour de la maison de Morlaix, et qu'il entend sa mère, pas son père, sa mère, crier
Les cris viennent de la fenêtre de la salle à manger. Alors il s'approche, il se hisse à la fenêtre, et voilà ce qu'il voit. Je vous lis la retranscription de l'enregistrement. J'ai vu Kémeneur par terre, et ma mère debout devant lui. Elle m'a aperçu, elle m'a appelé. La bonne Angèle était dans l'encadrement de la porte, elle avait entendu aussi, elle était toute pâle. Je crois que ma mère a dû se défendre et le frapper à la tête. Mon père est arrivé dans le courant de l'après-midi. C'est la seule fois que je l'ai vu pleurer. Il en était malade. Il était abasourdi. Il disait « On est ruiné, on est ruiné. Tout l'argent qu'on lui a donné, on n'en reverra jamais la couleur. » Alors ils ont discuté. Moi, je n'étais pas là dans les discussions. Ils ont discuté avec la bonne tout l'après-midi. Et moi, on m'a ramené à l'école le soir. Et on m'a fait jurer de ne rien dire. Incroyable! Le fils Esnec dit que c'est sa mère qui a tué Kémeneur. Pas son père! Sa mère. Sa mère à qui Kémeneur aurait fait des avances, qu'elle aurait repoussées. Kémeneur serait tombé. Et il serait mort accidentellement. Et dans ce scénario, Guillaume Sesnec, pour protéger sa femme, endosse le crime qu'il n'a pas commis. Et il rédige le faux compromis pour l'achat du manoir de Plourivaux uniquement pour récupérer le dessous de table qu'il a versé à Kémeneur. Puisqu'il est mort par la faute de sa femme, c'est perdu, il n'aura pas le manoir. Et donc il veut récupérer sa mise. Autant vous dire que cette version de l'histoire, celle de l'avocat Denis Langlois, ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, au petit-fils de Guillaume Sesnec, Denis. Lui, il se bat pour faire innocenter son grand-père. Mais il ne veut pas, en échange, accuser sa grand-mère qui est décédée jeune, après avoir toujours soutenu son mari. Mais enfin, de deux choses l'une, hein, ou bien on pense que plus de 90 ans après, on peut faire émerger la vérité sur ce dossier, et dans ce cas, il faut être prêt à accepter, y compris les issues qui dérangent, ou bien on considère qu'il est impossible de revisiter une telle affaire après tant de temps, et auquel cas il faut renoncer. Le gamin Sesnec dit que le corps de Kémeneur a été enterré sur place, dans la propriété des Sesnec à Morlaix. Et il dit où ? Une sorte de cellier qui est extérieur à la maison. Eh bien, il n'y a plus qu'à creuser. En février 2018, une équipe de bénévoles se met donc à creuser, avec un tractopelle. Et elle tombe sur des cendres, et sur deux ossements, et sur une pipe. Les cendres, ça colle. Vous vous souvenez qu'un ouvrier de Guillaume Sesnec dit qu'il le voit mettre en marche la chaufferie de la scierie quand il rentre à la maison. Mais les ossements, ce sont des os de bœuf. Fausse piste. Mais ça n'est pas fini. En décembre 2018, nouveau rebondissement. La radio RMC diffuse le témoignage d'une Normande de 85 ans, Cécilia Morand, qui raconte que son père, Georges, en 1923, a enterré en cachette dans le cimetière de son village de Saint-Lubin-de-la-Haye un cadavre que l'un de ses copains, un garagiste, lui a demandé de dissimuler. Un homme que le garagiste en question, un certain Raymond Laine, avait zigouillé à Oudan.
Mon père s'appelait Georges Morand. Il était responsable du cimetière à cette époque-là, tout en étant agriculteur. Et un jour, Raymond l'aîné est venu le chercher en pleine nuit pour qu'il l'aide à ramener le corps de Kémeneur. Raymond l'aîné avait tiré et l'avait blessé au ventre et ils l'ont ramené au cimetière. Là, mon père a indiqué quelle tombe il fallait prendre. C'était des tombes abandonnées depuis des années. Et là, ils ont déposé le corps dans le caveau.
Et pour le coup, ça, c'est une piste qui plaît bien au petit-fils de Denis Sesnec. Dans la version de son grand-père, on s'est toujours demandé où était passé Kémeneur après qu'il l'a déposé à la gare de Houdan. Eh bien là, on a une réponse. Il s'est fait zigouiller par un garagiste qui l'a enterré dans un cimetière. Et donc les gendarmes vont voir cette femme. Vous dites, madame, que votre père vous a dit qu'il avait enterré Pierre Kémeneur dans le cimetière du village, c'est ça ?
Enfin,
oui.
Enfin, il m'a pas dit Pierre Kémeneur, hein. Ça, c'est moi qui ai fait une déduction. Il m'a dit qu'il avait enterré un homme. Moi, j'ai déduit que c'était Kemener. Le procureur, à juste titre, trouve que c'est un peu léger pour se lancer 95 ans plus tard dans la fouille intégrale du cimetière de Saint-Lubin-la-Haye. Et donc on va en rester là, pour l'instant. Parce que pour le petit-fils de Denis, c'est une piste très crédible. Si vous voulez poursuivre cette histoire, je vous conseille le best-seller de Denis Seznec, « Nous les Seznec », aux éditions Robert Laffont. Et si vous acceptez les théories malpensantes, lisez donc « Pour en finir avec l'affaire Seznec » de Denis Langlois, aux éditions La Différence. À demain, 2h de l'après-midi pour une autre histoire.